Avec James, nous avons choisi pour ce matin de Noël d'aller à la recherche des premiers témoins de Jésus-Christ. Et donc, je vais lire maintenant dans l'Évangile selon Matthieu le récit de ces mages qui découvrent la présence de Dieu en Christ. Et ensuite, James, eh bien, se tournera vers les bergers. Donc, l'histoire de ces mages, c'est dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 2. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent, « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon fils. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et il se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille, moi aussi, l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Ils se prosternèrent et ils l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Aide-nous pour que ta parole puisse vraiment se faire un chemin dans notre existence, donnant naissance à cette vie nouvelle, à cette vie rayonnante, à cette vie pleine d'amour que tu veux nous offrir par grâce. Les mages, nous l'avons entendu, cherchent le salut en lisant dans les étoiles. C'est évidemment très discutable. Eh bien, Dieu respecte ces mages, il les prend comme ils sont, et puisqu'ils suivent les étoiles, eh bien, Dieu va se servir d'une étoile pour leur faire découvrir le Christ. Et heureusement, ce n'est pas la seule façon d'aller vers le Christ. Nous le voyons dans les évangiles, personne d'autre qu'eux n'arrive au Christ par les astres. Ni les bergers qui vont eux aussi à la crèche selon l'évangile de Luc, ni les apôtres, ni Marthe, ni le centurion, ni la femme cananéenne. Alors c'est bien que Matthieu commence, je crois, son évangile ainsi par les mages. Leur pratique est sans doute ce qu'il y a de plus étranger au Christ, à l'évangile. Car si même des mages arrivent à trouver le Christ avec cette pratique, nous devrions y arriver nous aussi, tels que nous sommes, pour peu, effectivement, que nous le cherchions, effectivement. Alors il y a bien des façons d'aller à la recherche du Christ. C'est vraiment une chance, car chacun a sa personnalité, chacun a sa sensibilité, ses dons propres, sa culture, son histoire, sa vocation personnelle. Et puis de plus, nous changeons au cours de notre existence, bien sûr. Alors ces mages de l'Évangile qui découvrent le Christ, en partie grâce à une étoile, nous apprennent l'œcuménisme et le libéralisme. Qu'importe finalement notre façon de trouver le salut de Dieu en Jésus-Christ ? L'essentiel est d'avancer vers lui et de se laisser toucher, de se laisser transformer par notre rencontre avec le Christ. Il y a une quantité de formes d'approche possibles du Christ. Celui qui aime la philosophie et la théologie peut avancer vers le Christ ainsi, bien sûr, en remarquant que le Christ est la meilleure réponse aux questions fondamentales de l'existence. Le scientifique peut avancer vers le Christ en analysant, en essayant de comprendre les merveilles de la nature. Celui qui est artiste peut avancer vers le Christ, découvrir même le salut en Jésus-Christ par ce qui est beau. Celui qui est plutôt mystique peut avancer par le sentiment, l'expérience de l'amour de Dieu, par la prière. Et il y a encore bien d'autres démarches possibles, bien sûr, mais le but n'est ni la prière, ni la philosophie, ni la lecture de la Bible, ni la science, ni la théologie, ni la musique, ni la poésie, ni que sais-je. Le but, c'est d'être transformé par le salut qui est donné en Jésus-Christ. La religion n'est qu'un moyen combinant de la réflexion, de la musique, de l'émotion, des gestes, comme dans ces mages qui cherchent le Christ en combinant leurs propres moyens, un peu bizarres eux aussi, avec aussi un dialogue avec la théologie, et même un dialogue avec le pouvoir politique, tout discutable est-il, et encore plus peut-être quand c'était Hérode que maintenant. Un point clé finalement est peut-être là, de combiner les approches. Et c'est ça qui rattrape, je crois, bien des choses. Bien sûr, chacune de nos approches est très discutable, est teintée de superstition, de je ne sais quoi, de nos faiblesses, de nos erreurs. Mais en combinant les approches, en discutant entre nous, ça rattrape bien des choses. Et c'est ça qui permet finalement aux mages d'aboutir dans leurs recherches. Ils ne sont pas restés des intégristes de leur étoile. Ils ont confronté leurs approches avec celles d'autres. Oui, la diversité est une vraie chance. La diversité de lumière aussi est une chance. Les mages viennent de l'Orient. Or, l'Orient, c'est le lieu où le soleil se lève chaque matin, où qu'on soit sur Terre. Les mages ont vu la limite de cette lumière terrestre. Ils ont vu les limites de cette vie terrestre et de ces zones d'ombre. Et ils ont cherché. Alors, ils ont suivi une étoile, un signe de la lumière divine qui brille dans les ténèbres de notre existence. Ils trouveront en Christ cette lumière, une lumière spirituelle qui n'annule pas la lumière terrestre, bien sûr, mais qui marque un cheminement possible, qui marque une autre dimension. Alors la vie sur Terre est bonne, ou plutôt la vie sur Terre est faite pour être bonne, selon Dieu. C'est pourquoi les mages n'abandonne pas la vie sur terre, ils retourneront, nous dit le texte, en Orient, dans leur pays, ils retourneront à leurs occupations, à leur famille, ils retourneront à leur vie, mais transformés. Ils seront alors plus complets, plus forts, dans la lumière terrestre et dans la lumière divine aussi, en combinant les deux. L'étoile évoque donc un des multiples moyens possibles d'avancer vers le lieu où la parole de Dieu nous est donnée. L'étoile n'est qu'un moyen. Et elle disparaît finalement, elle s'efface quand les mages arrivent au but qu'est le Christ. Les mages connaissent alors une grande joie. Ils n'en auront plus besoin après de cette étoile. Elle n'était qu'un moyen. Ils n'auront pas non plus, et ça c'est une surprise sans doute, ils n'auront pas non plus besoin de rester scotchés au Jésus de l'histoire, mais ayant trouvé auprès de lui un lien direct avec Dieu, on le voit après, car ils entendent directement dans leur cœur ce que Dieu leur propose, eh bien ils pourront retourner chez eux par un autre chemin transformé. « Il est avantageux que je m'en aille », nous dira ensuite Jésus-Christ, « car l'Esprit nous est donné ». La religion est comme cette étoile, comme ces théologiens consultés par les mages. L'Église n'est pas le Christ. Elle est un appel, elle est un signe pour avancer vers lui. La religion doit rester humble, elle doit s'effacer. Si elle se prend pour le Christ, elle devient alors une superstition, elle devient une autre astrologie ou une gnose, c'est-à-dire une connaissance qui se prend pour la vérité de Dieu. Or, quelle est cette vérité qu'ils vont recevoir en Christ? Eh bien, c'est une expérience. C'est une capacité d'être en relation avec Dieu, d'être en communion avec Dieu. Et c'est ce qui fait qu'ayant rencontré le Christ, ils n'ont pas besoin de rester là, en contemplation, mais qu'après ce temps avec le Christ, ils peuvent retourner chez eux transformés. Mais oui, alors, ils peuvent retourner chez eux. Le Christ ne fait pas de nous des esclaves. Le salut qu'il apporte est une dimension nouvelle dans une vie ordinaire. Cette transformation est offerte par grâce. En effet, le récit commence par cette phrase « Jésus étant né, nous n'avons pas à faire naître le Christ ». Et ça, c'est quand même une sacrément bonne nouvelle. Dieu nous offre la vie par grâce. Il nous offre le salut, un salut qui est tout prêt. Mais ce Christ, c'est un processus. Et c'est par la foi, en faisant passer notre vie dans ce processus qu'est le Christ, que nous recevrons de l'activer, si je puis dire, ce salut qui nous est donné en Christ. Eh bien, c'est ce que font les mages en ouvrant leur trésor, en remettant leur vie tout entière au Christ. L'or, l'encens et la myrrhe symbolisent ici des trésors, oui, la richesse de la vie humaine dans toutes ses dimensions. L'or représente les biens terrestres, notre corps, nos moyens humains, notre vie en ce monde que Dieu aime avec nos liens sociaux, avec notre travail, nos habiletés, nos richesses. En Christ, eh bien, nous n'avons plus honte ni de notre pauvreté, ni de nos richesses. Le matériel redevient un simple moyen utile de faire le bien, de rendre la vie belle et bonne. L'encens représente la prière, notre louange qui monte vers Dieu, notre espérance qui s'élève à lui. Ça aussi, on peut le remettre à Christ. En Christ, nous découvrons que nous pouvons nous adresser à Dieu sans crainte, car il est l'amour, oui. Nous découvrons que nous pouvons prier Dieu. La myrrhe servait à embaumer les morts. Elle représente notre espérance de durer, notre espérance d'être plus fort que la mort en Christ. Notre vie éternelle n'est plus dans les vaines pyramides ni dans des sarcophages d'or, mais notre durée, notre espérance, notre solidité réside dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour véritable. Nous pouvons ainsi tout confier au Christ, tout remettre entre ses mains pour que Dieu le vivifie. Nous pouvons lui confier notre vie en ce monde, nous pouvons prier en son nom, nous pouvons lui remettre même notre avenir, le temps qui est devant nous, cette journée qui s'ouvre, cette année aussi qui va s'inaugurer. Nous remettons notre vie entre ses mains, comme le Christ sur la croix remet son esprit entre les mains de Dieu. Amen. Et je vous propose de chanter le cantique 101 dans Louange et Prière. Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle, venez triomphant joyeux, venez en ces lieux. Les trois premières strophes de ce cantique numéro 101.
Prenons place pour entendre un écho dans l'évangile de Luc au chapitre 2, à partir du verset 8. On pourrait presque considérer que cela suit tout à fait la lecture de la leçon de Matthieu que Marc vient de faire. Car il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ Seigneur. » Et ceci sera pour vous un signe, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges se furent éloignés, vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent tout ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant, et tous ceux qui les entendaient furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Seigneur, ta parole est la vérité, alors sanctifie-nous par la vérité. Encore un autre récit de Noël où finalement il n'est pas beaucoup question du petit enfant, mais plutôt des personnages qui gravitent autour de la crèche. Et donc chez Luc, c'est les bergers qui sont au premier plan de l'histoire, des bergers qui sont avec leur bétail, au champ, ce que l'on conçoit plus volontiers au printemps qu'au cœur de l'hiver un peu austère, mais toujours est-il que les bergers sont là dans les champs avec leur bétail. D'ordinaire, nous le savons, ce sont les bergers qui conduisent les troupeaux. C'est un peu leur fonction finalement. Les bergers sont censés être bergers. Alors il peut s'agir soit de moutons ou de brebis, comme on l'imagine bien volontiers, mais nous savons que dans les textes bibliques, les bergers sont souvent la métaphore des pasteurs, non pas simplement les pasteurs des paroisses, mais les bergers d'Israël, ceux qui ont la responsabilité de conduire non pas le bétail, mais les personnes. Et que ce soit des bergers-bergers ou des bergers-pasteurs, ce qui est frappant, c'est qu'ici, ce n'est pas eux qui mènent la danse, c'est eux qui sont guidés. Et c'est ainsi que cette leçon d'évangile dit que Noël, c'est le moment où Dieu reprend la main dans l'histoire des hommes. C'est la deuxième fois que Dieu s'y prend ainsi, selon ce que nous découvrons dans les textes bibliques. La fois précédente, c'était au temps de Josué, celui qui fait entrer le peuple en terre promise. Et j'aimerais vous montrer de quelle manière cet évangile de Noël, selon Luc, résonne avec ce récit de l'entrée en terre promise. J'aimerais que nous entendions à quel point ce récit de Noël donne une ambiance d'entrée en terre promise. Tout commence avec l'apparition d'un membre de l'armée céleste, un ange, qui annonce la naissance d'un sauveur, qui est Christ Seigneur. Dieu sauve. Vous me direz, à Noël, on n'en attend pas moins. Mais Dieu sauve, voilà un nom qui résonne fortement, notamment en hébreu, car il s'agit ni plus ni moins de Josué. Josué en hébreu, Dieu sauve, Jésus en grec. Les bergers apprennent la naissance de Josué ou de Jésus, comme vous voulez. Dieu sauve. Et les voilà d'un seul coup confrontés finalement à leur mémoire, qui leur parle d'une expérience fondatrice, celle de Josué, qui fait entrer le peuple en terre promise. Josué qui permet au peuple d'accéder à une terre habitable, de cesser l'errance du désert, mais d'avoir accès à un espace vital, l'ouverture d'un horizon qu'ils vont pouvoir fréquenter, dans lequel ils vont pouvoir s'installer, vivre à l'air libre. Il y a quelque chose de paradoxal, me direz-vous, à considérer que des bergers qui sont dans un champ vont pouvoir entrer dans une terre habitable. N'était-ce pas déjà le cas ? Mais je crois que, à la manière de ces mages qui ne doivent pas rester intégristes de leur étoile, il ne faudrait pas que les bergers demeurent intégristes de la terre sur laquelle ils sont. Aussitôt les anges partis, les bergers se concertent pour savoir quelle conduite tenir. Eh bien justement, ce qu'ils vont décider, c'est de quitter leur terre. C'est de s'arracher au lieu où ils se trouvent. Ils décident d'aller voir ce qui est arrivé. Mais ils ne se contentent pas d'y aller, à vrai dire. Le texte grec dit qu'ils décident de traverser, diarkomai. Ils vont devoir traverser. Traverser quoi ? Mystère. Car on ne précise pas ce qu'il y a à traverser. Toujours est-il qu'il y a ici certainement un écho à une autre traversée, celle du Jourdain, autrefois, lorsque Josué mit le peuple en ordre de marche pour entrer dans cette terre promise. De fait, les bergers sont rendus à leur nature de fils d'Israël. Les bergers deviennent passeurs, ils passent, ils traversent. C'est le sens du mot hébreu, traverser, passer. Peut-être est-ce là une manière de dire que Noël nous rappelle que le juste rapport à la vie, c'est celui du passage, de la traversée, passer les frontières, à la manière des mages venus de l'Orient et qui traversent eux-mêmes leurs propres connaissances pour entrer en dialogue avec les autres, c'est ce qu'expliquait Marc notamment. Mais il y a des limites qui ne sont pas que géographiques, qui ne sont pas que disciplinaires. L'entrée en terre promise est toujours à faire de nouveau pour ne pas rester dans nos propres certitudes, et en ce qui concerne les bergers, notamment la certitude du sol. Il convient de ne jamais cesser d'être hébreux, en quelque sorte, d'être toujours passeur, traverseur, de traverser, de passer outre, de ne pas rester figé, de ne pas rester fiché en terre, car cela, être lié au sol, ce serait du paganisme. Au fond, les textes bibliques nous interpellent sur le fait qu'à chaque fois qu'un homme biblique fait signe dans l'histoire, c'est par l'appel au mouvement. Quitter sa terre, quitter les siens et aller de l'avant, faire histoire. Et cette traversée se fait à la hâte, apprend-on, avec entrain, avec enthousiasme. Vous aimeriez peut-être d'ailleurs vous lever, partir précipitamment pour vous réchauffer. Mais non, pour l'instant, vous êtes à l'écoute. Mais vous voyez à quel point les bergers partent à la hâte pour aller jusqu'à Bethléem. Car la question, évidemment, c'est à quoi bon attendre ? Pourquoi différer ? C'est maintenant, aujourd'hui, disent les anges, qu'il vous est né un sauveur. Et c'est donc dès à présent que nous pouvons en profiter. À vrai dire, rester ici, les bras croisés, ce serait manifester le fait que ça peut bien attendre plus tard, que ce n'est pas si important que cela. Moi, ce matin, mes enfants ont même triché avec l'horaire pour ouvrir les cadeaux. On leur avait dit 7 heures, ils ont tourné les aiguilles de leur montre pour venir à 7h20. Parce que pour eux, c'était important. Eh bien, l'empressement des bergers est digne de la hâte des enfants qui veulent découvrir leurs cadeaux. Leurs cadeaux au pluriel en ce qui me concerne, des traîtres. On ne traîne pas des pieds quand c'est vraiment important, quand il y a quelque chose de décisif qui se joue. On ne traîne pas des pieds quand ça nous intéresse vraiment. Et là, les bergers réagissent à quelque chose qui les concerne fondamentalement. Ils réagissent avec entrain, ils traversent avec hâte, et non pas à la manière de « oh non, il faut encore fêter Noël ». Et que retirent-ils de ce périple, nos braves bergers ? Qu'ont-ils donc traversé ? Eh bien, les bergers viennent de faire l'étonnante expérience de l'entrée en terre promise, qui consiste ici à accéder à cette qualité de vie où ce que nous faisons est en accord avec ce que nous disons ou pensons. Oui, les bergers ont vu et entendu conformément à ce qui leur avait été dit. C'est rare ce genre d'harmonie. C'est rare que les choses se déroulent exactement telles qu'on les avait prévues, telles qu'on les avait annoncées. Nous entendons Paul nous dire « Je fais toujours le bien que... » Non, je ne fais jamais le bien que je voudrais faire et je fais toujours le mal que je ne voudrais pas faire. Eh bien, il y a une harmonie, une symphonie. Tout coïncide, tout concorde. Pas d'écart, pas de décalage ni de raté. Noël, visiblement, c'est ce moment où nous permettons à Dieu de nous faire accéder à une plus grande cohérence de vie, à moins de déchirements internes. Noël, découvrons-nous ici, c'est l'advenue du Christ qui inaugure ce moment où Dieu n'est pas celui qui réalise tous nos vœux, mais celui qui tient toutes ses promesses. Et Noël, c'est alors ce moment de notre histoire où Dieu nous fait comprendre que la terre promise nous est effectivement permise. Le royaume des cieux n'est pas qu'une utopie, un lieu pour nous faire rêver, un lieu pour nous rendre la vie plus triste, moins triste, une sorte de leurre pour nous la rendre plus douce, mais plus fausse aussi. Noël, c'est ce moment où cette terre promise est effectivement permise. Noël, c'est Dieu qui nous sauve de l'enlisement dans une vie un peu trop étriquée, un peu trop enfermée. Même lorsque nous avons l'impression qu'il n'y a aucune barrière matérielle autour de nous, il se peut qu'en fait nous ayons des enfermements intérieurs qui nous brident, qui nous limitent. Eh bien ici, nous avons l'occasion de traverser. Dieu suscite en nous l'enthousiasme, la hâte pour nous faire traverser afin que nous prenions pied le plus rapidement possible sur cette rive de l'existence où nous pouvons vivre en plein accord avec nous-mêmes et avec Dieu. Et cela n'est pas qu'une utopie, nous dit l'Évangile. C'est réalisable. L'éthique n'est pas simplement une sorte de chimère. Noël, c'est Dieu qui nous permet de vivre une plus grande harmonie, une profonde réconciliation entre nos projets et nos réalisations. Vivre face à ce vaste horizon, à cette terre libre, cette terre promise qui nous est permise et qui est une terre qu'il nous faut maintenant explorer. Amen.